la conversation scientifique par Étienne Klein. Aujourd'hui, les réseaux, qu'ils soient sociaux ou non, sont-ils intelligibles ? En fait, cela remonte à loin. Au XVIIIe siècle, la ville de Königsberg, alors en Prusse, était construite autour de deux îles situées sur un fleuve, et ces deux îles étaient reliées entre elles par un pont. Six autres ponts reliaient les rives du fleuve à l'une ou l'autre des deux îles. Je vous ferai bien un petit schéma pour clarifier mon propos, mais François Connac vient de me faire signe au travers de la vitre pour me rappeler que nous étions à la radio. Les habitants de Königsberg se posaient une drôle de question, une question archi-capillotractée. Existait-il ou non un chemin, se demandait-il, qui permettrait de traverser chaque pont une fois et une seule et de revenir à son point de départ? Et cela sans tricher, c'est-à-dire sans traverser la rivière à la nage ou en barque. Ce problème, baptisé le problème des sept ponts de Königsberg, fut résolu en 1736 par le grand mathématicien Euler. À l'aide de graphes, celui-ci démontra qu'un tel chemin n'existait pas. Pour qu'il fût possible, il aurait fallu que chacune des quatre zones géographiques, les deux îles et les deux rives, soit accessible par un nombre pair de ponts. Ainsi naquit le premier théorème de la théorie des graphes, prémisse lointaine de l'actuelle théorie des réseaux, qui ne sont pas nécessairement téléphoniques, ferrés ou sociaux. Il y a en effet toutes sortes de réseaux que les physiciens et les mathématiciens tentent aujourd'hui de comprendre. Ils cherchent à déterminer leur structure, leur dynamique, ils tentent de les classer, de réduire leur complexité grâce à des lois simples, afin de mieux expliquer, par exemple, la propagation dans l'espace et dans le temps des maladies infectieuses, également celle des rumeurs qui vont bon train, la formation des opinions, la structuration des flirts dans les collèges et les lycées, et bien d'autres choses encore. Pour y voir plus clair, j'ai invité l'un de ces physiciens spécialistes des réseaux. Bonjour Marc Barthélémy.
Bonjour.
Vous êtes physicien donc, vous travaillez à l'Institut de physique théorique de Saclay et également au Centre d'analyse et de mathématiques sociales de l'EHESS. Alors, je sais à peu près ce que c'est que la physique théorique, mais les mathématiques sociales, j'ignore.
Le Centre d'analyse et mathématiques sociales avait pour vocation au début de faire surtout des statistiques appliquées aux sciences sociales et il y a eu une petite dérive vers la modélisation et avec l'arrivée de physiciens qui regardent les données mais qui ne se contentent pas de faire de la statistique mais essayent de proposer des modèles et de comparer les prédictions de leurs modèles avec les données.
Mais rassurez-moi, les mathématiques qui ne sont pas dites sociales ne sont pas pour autant antisociales.
Non. Au contraire, d'ailleurs, il faut, je crois, rassurer tout le monde. Les mathématiques qu'on utilise dans tous ces domaines, dans les sciences sociales, puisqu'il y a de plus en plus de données, c'est pour comprendre les données, comprendre les mécanismes importants, mais on est encore loin de décrire parfaitement le comportement des individus. Et en fait, ce qu'on est capable de faire dans certains cas, c'est de décrire juste le comportement d'un grand nombre d'individus. Et c'est pour ça qu'on peut s'intéresser à des comportements collectifs, en ce qui nous concerne aujourd'hui, à des grands réseaux constitués d'un grand nombre d'éléments qui interagissent les uns avec les autres.
Alors vous avez une formation de physicien théoricien, vous êtes vous-même toujours physicien théoricien. Qu'est-ce qui vous a mené personnellement au réseau, qui est un sujet qu'on traite peu dans les cours de physique théorique ?
Le tournant vraiment important a été en fin 98, avec la publication d'un papier dans Nature par Watts, qui était alors étudiant en thèse en physique, et son patron de thèse, Strogatz, qui est un physicien. Où pour la première fois, disons, des physiciens ont pris des données de réseaux, ont étudié ces réseaux empiriquement et ont essayé de comprendre un peu leurs points communs. Et ça a été le point de départ d'un très très grand nombre d'études et voir des physiciens finalement appliquer des méthodes qu'on a, des méthodes et des concepts qu'on applique en général à des systèmes composés d'un grand nombre d'éléments, finalement se dire qu'on pouvait faire la même chose sur des grands réseaux ça a poussé tout un tas de gens de la physique théorique et une branche en particulier de la physique théorique et la physique statistique qui s'occupe essentiellement des comportements collectifs justement de grands systèmes. Donc ce premier papier a poussé tout un tas de gens dont je fais partie, de physiciens, statisticiens, à étudier ces réseaux.
Est-ce que cela vous va si je vous dis que vous êtes un dictyologue ?
Un dictyologue que je connais pas.
C'est un mot grec. Dictyos en grec c'est réseau. Et la dictyologie, c'est l'étude des réseaux.
Ah ben,
donc je vous ai appris quelque chose.
Voilà, merci.
Vous êtes un dictyologue. Ça s'écrit D-I-K-T-Y-O-L-O-G-U-E.
Merci beaucoup, je cherchais un titre.
Voilà. Alors on parle des réseaux, mais on n'a toujours pas donné leur définition, Marie-Barthélemy. Qu'est-ce que c'est qu'un réseau ?
Alors, on peut trouver un peu de tout, mais essentiellement, on peut remonter à Euler et utiliser finalement le mot graphe, qui est essentiellement un synonyme. Un graphe, c'est aussi un réseau. C'est un ensemble de nœuds et de liens. Autrement dit, on a des nœuds qui sont tout un tas de choses. Alors, on pourra en parler. Il y a tout
un
tas
d'exemples. On peut représenter par un point dans l'espace ?
Pas forcément dans l'espace, mais qui peut être un point. Donc, dans les réseaux sociaux, les nœuds sont les individus, par exemple.
Ordinateurs, des individus plutôt, non ?
Alors, ça dépend si on parle d'Internet ou de Web ou des réseaux sociaux.
Alors,
selon le réseau considéré, si c'est Internet, c'est plutôt les nœuds sont les routeurs, les ordinateurs, etc. Dans le Web, les nœuds sont plutôt les sites Web. Et dans un réseau, par exemple, amical, les nœuds sont les individus. On peut imaginer aussi le réseau des lignes aériennes où les nœuds sont les aéroports. Un réseau important pour la propagation d'épidémies. Et ces nœuds sont reliés par des liens. Alors, les liens existent parfois de manière physique, comme dans le Internet, par exemple, ou le réseau, même le réseau des lignes électriques. Les nœuds, dans ce cas-là, sont des transformateurs, des centrales, et les liens sont les câbles électriques qui relient ces différents éléments. Dans un réseau social, là, on a aussi des liens, mais qui sont pas physiques et qui nécessitent une convention. Donc, on est obligé de dire, voilà, on va mettre un lien entre deux individus si, par exemple, ils s'échangent des coups de téléphone régulièrement ou s'ils s'échangent des mails ou s'ils se sont déclarés comme amis sur un réseau social, ce genre de choses. Donc, là, à chaque fois, on a un graphe ou un réseau. Je considère que c'est pareil, qui est donc ces différents nœuds, ces différents points qui sont reliés entre eux par des liens. Et beaucoup de réseaux existent de manière un peu virtuelle, comme par exemple le web. Il y a aussi des réseaux qui sont vraiment plongés dans l'espace, où là, les nœuds sont effectivement dans l'espace. Le réseau des lignes aériennes, les nœuds sont les aéroports qui, eux, existent physiquement. Le réseau, par exemple, les lignes de métro, le réseau de métro, là, les nœuds sont les stations de métro. Et les lignes aussi sont bien physiques, bien réelles, sont les lignes. Les liens sont dans ce cas-là, on représente deux stations sont reliées par un lien quand elles sont consécutives, quand on peut passer de l'une à l'autre directement.
Bon. Quand on représente un graphe ou un réseau, on voit donc des points reliés ou non par des liens. Et ça donne envie de définir une sorte de distance entre les points. Cette distance, il faut préciser sa définition pour la comprendre. Et je vous ai entendu dire un jour que la distance entre Ava Gardner et Groucho Marx était de 2. Et il me semble que ça mérite une explication. Comment est-ce qu'on mesure la distance entre deux acteurs ?
C'est effectivement sur, donc quand on voit ces grands réseaux, on peut mesurer tout un tas de choses. Donc on parlera sans doute d'autres quantités comme le degré. Mais un objet très intéressant sur ces réseaux sont les chemins. Alors, on peut définir différents types de chemins.
On revient au problème de l'air, des 7 ponts de
Voilà,
Königsberg.
Et on part d'un nœud, quel qu'il soit, et on veut arriver à un autre nœud. Ça, en passant uniquement par des liens qui existent. Alors, pour le réseau des acteurs, qui est assez connu, qui a même donné lieu à un jeu aux États-Unis, qui était le Kevin Bacon Game, il faut définir effectivement quels sont les nœuds et les liens de ce graphe. Alors, dans le réseau des acteurs, les nœuds sont les acteurs. Et on met un lien entre deux acteurs s'ils ont tourné dans le même film.
Mmh. Donc, dans ce cas-là, leur distance, entre guillemets, est nulle ?
Non, dans ce cas-là, par convention, on dit que leur distance est 1.
D'accord.
Donc, par exemple, si Gérard Depardieu a joué à Catherine Deneuve, leur distance est 1.
D'accord.
Donc, on peut, alors, aux États-Unis, le jeu, c'était donner le nom d'un acteur quelconque et trouver le chemin le plus court à Kevin Bacon. En mathématiques, on a le même problème qui est le nombre d'erdos. Erdos, qui était un fameux mathématicien qui a obtenu beaucoup, beaucoup de résultats en théorie des graphes, entre autres. On peut aussi définir la distance entre deux personnes, c'est-à-dire que ma distance avec un mathématicien va être égale à 1 si on a publié un papier, un article ensemble. Et donc on peut se demander quel est le nombre d'Erdos, c'est-à-dire quelle est ma distance. Est-ce qu'il y a un chemin qui va d'un mathématicien à un autre qui ont collaboré ensemble
par le biais des publications communes?
Voilà, exactement. Pour les acteurs, c'est juste, est-ce qu'ils ont tourné ensemble? Donc effectivement, alors j'ai plus le nom en tête, mais Ava Gardner a joué avec, a tourné un film avec un acteur qui...
John Carradine.
Voilà, John Carradine, merci, qui lui-même a joué avec Groucho Marx.
Donc, selon mais la Ava définition... Gardner n'a jamais joué avec Groucho Marx, donc non. Leur distance est supérieure à 1.
Oui.
En l'occurrence, elle vaut 2, puisqu'il y a un acteur qui a joué avec l'un et l'autre.
Voilà. Donc en fait, on s'aperçoit que dans un graphe, il y a beaucoup de chemins qui vont d'un point à un autre. Ce qui nous intéresse en général, c'est le plus court chemin. Et c'est ça qui va définir la distance. Quand on dit que la distance d'un point A à un point B dans un graphe, c'est 3 ou 4, ça veut dire que c'est la distance, le nombre de sauts minimal pour aller de A à B. Mais bien sûr, en général, il existe des chemins redondants, beaucoup plus longs. Mais ce qui nous intéresse, c'est le plus court. Et c'est ça qui va définir notre distance dans un graphe.
Est-ce qu'il y a toujours un point, enfin, un chemin qui relie un point à un autre? Non, parce qu'il peut y avoir des impossibilités, comme dans le cas du problème des 7 ponts de Königsberg.
Tous les points sont reliés dans le problème des ponts de Königsberg. En revanche, dans les grands réseaux, parce que c'est ce qui nous intéresse essentiellement, on a des milliers, voire des millions ou plus de nœuds. Il n'est pas du tout évident que tous les nœuds soient reliés ensemble ou qu'il existe un chemin, auquel cas la distance serait infinie. Mais il se passe quelque chose assez rapidement. Alors ça, on le comprend dans des modèles assez simples de graphes aléatoires. Il suffit finalement d'assez peu de liens pour qu'il y ait ce qu'on appelle une composante géante, c'est-à-dire une fraction majoritaire, très élevé en général, de nœuds qui sont effectivement connectés les uns aux autres par le biais d'un chemin. Donc, autrement dit, la fraction d'éléments disconnectés, isolés, alors, il y en a, ils existent, mais est très faible. Et très rapidement, le graphe percole, d'une certaine manière, c'est relié d'ailleurs au problème de percolation physique, d'une certaine manière, le graphe percole, et la majorité des nœuds sont reliés les uns aux autres. Donc, on n'a pas...
Est-ce qu'il y a un lien entre la taille d'un réseau et ce qu'on pourrait appeler sa complexité? Est-ce qu'elle se mesure, la complexité? Est-ce qu'il y a une relation entre taille et degré de complexité?
C'est une question assez difficile parce qu'on n'a pas de définition très claire de la complexité. En revanche, ce qu'on observe, c'est que tous les grands réseaux possèdent une structure non triviale. C'est-à-dire que ça a été un peu ça la grande découverte dans les années 2000, 2001, 2002. Qui ont suivi toutes ces mesures de grands réseaux, que ce soit Internet, le web, certains réseaux sociaux. On s'est aperçu que leur structure n'était pas du tout simple. Alors, on sait à peu près ce que c'est simple, en revanche complexe, je ne sais pas, mais on s'est aperçu que beaucoup de quantités n'étaient pas du tout évidentes, qu'on avait des choses un peu particulières, et le point le plus important, c'est surtout la très très forte hétérogénéité des degrés, c'est-à-dire les connexions que les nœuds ont. Alors de ce point de vue, c'est ce qu'on a appelé les réseaux complexes. De ce point de vue, les réseaux sont pas du tout simples. On a une hiérarchie de nœuds, on a des nœuds effectivement un peu isolés, on a des nœuds qui ont un nombre raisonnable de connexions. Alors on peut penser en termes d'amis, par exemple, si on pense à un réseau social, il y a des gens qui sont un peu seuls, il y a des gens qui ont un nombre moyen d'amis, et puis il y a surtout ces fameux hubs, faute de traduction, c'est des nœuds très fortement connectés.
C'est des nœuds hyper connectés, voilà. Et donc la complexité serait liée à la diversité des liens que les nœuds ont les uns avec les autres. Il faut qu'il y en ait parfois très peu ou pas du tout, et d'autres fois il y en ait beaucoup.
Alors c'est la diversité des nœuds. Il y a effectivement une abondance non négligeable, statistiquement non négligeable, de nœuds très fortement connectés. Et l'existence de ces hubs, qui n'étaient pas du tout prévus à l'avance, et tous les modèles, finalement, les gens qui faisaient la sociologie mathématique jusqu'aux années 2000, utilisaient des modèles de réseaux aléatoires qui possédaient pas du tout cette très forte hétérogénéité. Donc ça a été un peu la surprise, ça a été de voir qu'on a ces hubs, ces nœuds super connectés, et on les trouve un peu dans tous les réseaux importants, et la présence de ces nœuds est très importante et modifie leur structure, évidemment, et a aussi un impact très important sur tous les processus de dynamique. Donc ce qu'on pensait comprendre sur les nœuds, disons, je dirais normalement aléatoires, et plus du tout valable sur ces structures avec un nombre important de hubs.
Est-ce que ça a un effet sur la fragilité des réseaux ? On pourrait se dire que si des points sont très très connectés, en les touchant, en les rendant inactifs par exemple, en coupant ces liens, on coupe le réseau en deux réseaux, ou bien on le fragilise, on le rend plus simple.
Alors, c'est une partie intéressante de la complexité de ces grands réseaux. Le fait qu'il existe des hubs, ces nœuds très fortement connectés, les rend à la fois fragiles et robustes. Et tout dépend de quel type d'attaque. C'est ça qui est intéressant.
Prenons l'exemple, pour que les auditeurs nous suivent, du trafic aérien, des aéroports. Il y a des aéroports qui desservent pratiquement toutes les destinations, d'autres qui ont des domaines d'activité plus locaux. Est-ce qu'on peut prendre cet exemple pour illustrer ce que vous dites?
Oui, tout à fait. On peut imaginer aussi la propagation de virus sur Internet, où on a des routeurs, des serveurs, des ordinateurs qui sont reliés à tous les autres ordinateurs quasiment. Donc il faut imaginer qu'on a ces nœuds un peu particuliers qui sont connectés à tout le monde, presque tout le monde, et qui sous-tendent vraiment la structure du graphe, et ce qui fait la complexité de ces réseaux. Et le fait que ces nœuds existent rend ces réseaux très résistants face à des attaques aléatoires. C'est-à-dire que si on enlève des nœuds au hasard dans ces réseaux, il ne se passe rien essentiellement. Il ne se passe rien parce qu'essentiellement la probabilité de tomber justement sur un de ces hubs est très faible. Et essentiellement, ces réseaux sont très robustes face aux attaques aléatoires. En revanche, ces réseaux ont un talon d'Achille justement, ce sont ces hubs. Et si on attaque précisément, donc c'est une attaque ciblée, dans le cas des aéroports, les aéroports les plus importants, etc., là, le réseau entier s'effondre beaucoup plus vite. Donc, selon la nature de l'attaque, la manière dont on veut casser ce réseau, il va être plus ou moins résistant. Donc, c'est vraiment une partie de la complexité de ces réseaux. Les réseaux qui ne sont pas de ce type-là, qui sont vraiment des réseaux où il y a très peu d'hétérogénéité, présentent essentiellement le même comportement selon qu'on ait une attaque un peu ciblée ou pas. On n'a pas de hub vraiment, on a des nœuds un peu plus connectés que les autres. Mais essentiellement, ça n'a pas d'impact. En revanche, dès qu'on a des hubs, ça change effectivement l'architecture de ces réseaux, la manière dont ils résistent au fait d'enlever des nœuds. Et ça a évidemment un impact quand, par exemple, on veut arrêter une épidémie. Puisqu'une épidémie va se propager sur ce réseau, et on peut se dire, donc là dans ce cas-là, les nœuds sont les individus, les liens sont représentent la possibilité que le virus passe d'un individu à un autre, et on peut se dire, ah mais je veux arrêter ce virus, comment je dois faire? Quelle stratégie d'immunisation? Donc c'est un problème relié. Est-ce que il faut immuniser au hasard, enlever les nœuds au hasard, ou est-ce qu'au contraire il faut cibler des nœuds un peu particuliers? Et l'existence de ces nœuds change justement toute la stratégie. Et en particulier, le résultat important, c'est que, et ça suit vraiment ce que je viens de dire, c'est qu'une stratégie d'immunisation au hasard pour laquelle on prend des individus au hasard et on leur donne un vaccin, par exemple, n'a aucun effet, ou très très peu d'effet, quand on a justement une structure un peu compliquée avec des hubs, etc. Donc ce qu'il faut, finalement, c'est repérer ces hubs, ces gens très très connectés, et c'est eux qu'il faut vacciner en priorité.
France Culture. La conversation scientifique par Étienne Klein.
Alors vous parlez souvent, Marc Barthélémy, de Milgram, Stanley Milgram, qui est un psychologue social américain. Il y a des psychologues sociaux comme il y a des mathématiques sociales. Et il est surtout connu pour une expérience qui est celle qu'on voit dans le film I comme Icar, c'est-à-dire qu'il a montré par une série d'expériences sur la soumission à l'autorité qu'un individu peut se plier aux ordres d'une autorité qu'il accepte, même lorsque cela entre en contradiction avec sa conscience. Mais il y a d'autres expériences de Milgram, notamment celle par laquelle il a cru démontrer que le monde était petit. Alors qu'est-ce que ça veut dire ?
Milgram est effectivement un psychosociologue américain que je trouve extraordinaire pour ma part. D'ailleurs, ses œuvres complètes ont été publiées assez récemment.
Et, il est mort assez jeune, il est mort à 51 ans.
Oui. Et il a fait un an de sabbatique à Paris. Il a fait quelques études à Paris sur la représentation mentale des villes, par exemple Paris versus New York. Il a fait tout un tas d'études différentes, comment mesurer l'impact de quelqu'un qui veut tricher dans une file d'attente. Il a fait tout un tas de choses.
Quelqu'un double ou
quelqu'un,
prend une place
quelqu'un
qui n'est pas
tout
la
d'un coup oui voilà quelqu'un tout d'un coup se rentre dans la file d'attente, passe devant tout un tas de gens, et quand est-ce que la file d'attente réagit? Donc il a essayé de quantifier ça, de faire des expériences, et
c'était comment ça se passe alors, comment est-ce que si personne ne réagit?
Alors en fait la conclusion de cette étude, c'est que si les premières personnes qui se retrouvent flouées directement par la personne qui rentre dans la file d'attente ne réagissent pas, là, il y a une très forte probabilité que le reste de la file d'attente ne réagit pas. Donc ça peut donner quelques idées. Si vous voulez rentrer dans une file d'attente, c'est mieux de connaître quelqu'un, puisque lui essentiellement ne dira rien, et très probablement le reste de la file d'attente ne dira rien non plus. Et ça, il l'a mesuré, et il était très attaché à cette notion d'expérience, et donc de fonder des théories sociologiques sur des expériences. Et de ce point de vue, il était vraiment remarquable. Et c'est lui qui, dans la fin des années 60, alors il y avait déjà, c'était un petit peu dans l'air, mais il s'était posé cette question du plus court chemin entre deux individus. Donc, plus court chemin dont on parlait dans le réseau social. C'est-à-dire que si je connais un tel qui connaît machin, je suis à une distance de machin. Donc, on veut mesurer la distance moyenne.
C'est un peu comme l'histoire des acteurs de cinéma.
Exactement, exactement. Mais entre deux personnes prises au hasard, donc là, il s'intéressait surtout aux États-Unis à l'époque, entre deux Américains, quel est le plus court chemin en passant par des individus qu'on connaît? Et donc, il a imaginé un système de lettres. Le but, c'était, il fallait envoyer une lettre à, si je me souviens bien, un avocat qui vit à Boston, sur la côte Est. Et si vous ne le connaissez pas, envoyez la lettre à quelqu'un que vous connaissez et qui probablement connaîtra cette personne. Et donc, par ce système de lettres, ils arrivaient à suivre le chemin, finalement, de connaissance pour arriver jusqu'à cette cible, cette personne cible. Et finalement, le nombre de lettres qu'il a fallu envoyer, ça donne une idée du chemin entre deux personnes prises au hasard. Alors, sur toutes les lettres qui ont été envoyées dès le début, toutes ne sont pas arrivées. Certaines se sont perdues pour tout un tas de raisons.
Beaucoup ne sont pas arrivées, d'après ce que j'ai lu. 5% seulement sont arrivées à leur destinateur.
Bon, je me souviens plus du nombre. Mais en tout cas, celles qui sont arrivées sont, de manière un peu surprenante, sont arrivées avec une distance assez faible. C'est-à-dire qu'il fallait en moyenne 6 lettres pour arriver jusqu'à cette personne cible.
Donc moins de 4 jours pour l'expédition. Pour qu'elle arrive au destinateur, moins de 4 jours en moyenne.
Alors je ne connais pas le temps que ça a mis, en revanche, c'est une bonne question. Je ne sais pas, oui, je ne sais pas.
Ouais. Moi j'ai lu ça dans l'article de 67.
D'accord, oui. Alors il y a un histogramme, hein, c'est pas 6 exactement pour tout le monde, c'est-à-dire qu'on a on a des hétérogénéités, c'est parfois un peu moins ou parfois un peu plus selon la personne de départ.
L'idée c'est que le monde est petit finalement.
Alors voilà, alors ce qui est étonnant c'est qu'il y a quand même des millions de personnes, centaines de millions aux États-Unis, et la distance moyenne est de l'ordre de quelques unités, 5-6. Alors c'est ce qui a donné lieu d'ailleurs à la fameuse expression les 6 degrés de séparation, et aussi à l'autre expression c'est un petit monde, it's a small world, puisque finalement parmi des millions, des centaines de millions d'individus, il existe un chemin qui est très petit, finalement de l'ordre de l'unité. Donc quand on compare les ordres de grandeur, que les physiciens aiment bien faire, on voit d'un côté 100 millions de personnes, donc en gros c'est le nombre de nœuds dans mon réseau social, et un résultat qui est 6, donc on a beaucoup beaucoup d'ordre de grandeur de différence.
Si je traduis en langage simple, ça veut dire qu'il ne suffit que de 6 nœuds pour passer de n'importe quel point du réseau, pourtant très abondant en nœuds, à n'importe quel autre nœud.
On n'a pas besoin d'explorer tout le réseau. Il existe des chemins très courts qui permettent de relier n'importe quel point à n'importe quel point.
Mais quand Milgram a fait son expérience, c'était en 67, il n'existait pas de réseaux sociaux. Est-ce que les réseaux sociaux changent la donne? C'est-à-dire, est-ce qu'on pourrait imaginer que la distance devienne plus courte au motif que les gens sont plus connectés?
Alors, ça dépend ce qu'on appelle réseau social. Il existait un réseau social, pas électronique, mais un
oui,
réseau
bien sûr.
Social.
Oui.
Donc, les gens avaient des amis, mais ils n'avaient pas... Oui. Alors, il n'y avait effectivement pas
Dans la vraie vie, on ne peut pas avoir 5000 amis. Donc,
Tout à fait. L'expérience a été refaite avec des moyens un peu plus modernes, avec des emails, mais aussi avec en regardant la téléphonie, des appels téléphoniques entre téléphones portables. Et... l'appareil, on suppose que il faut une définition du lien. Par exemple, pour la téléphonie mobile, si deux personnes ont échangé un nombre suffisamment grand de coups de téléphone, on suppose que ces deux personnes sont amies. Donc, on met un lien entre ces deux personnes. Pour les emails, pareil, il faut un échange de emails, un échange réciproque de mails pour supposer que ces personnes sont amies et mettre un lien entre ces deux personnes. Et ces deux expériences ont montré qu'effectivement, la distance moyenne entre deux individus, alors pour les mâles, c'était dans le monde entier. Donc là aussi, on a le problème. On a un problème qui est que tous les mâles ne sont pas arrivés. Donc l'expérience était pareille. Il fallait envoyer un mail à une personne cible. Et parmi les mails qui sont arrivés à cette personne cible, alors les personnes cibles étaient dispersées dans le monde entier, en fait, la distance était très faible, 4, 5, 6. Donc on retrouvait cet effet assez incroyable qui est que parmi des millions, des centaines de millions, même des milliards de nœuds, on a un nombre qui est de l'ordre de l'unité pour relier deux personnes.
Et on ne sent pas la barrière entre les langues, le fait que les gens sont dans des pays différents?
Tout était en anglais, effectivement. Et c'est intéressant de voir d'ailleurs que les lettres, les mails qui sont arrivés le plus souvent étaient pour une personne cible qui était un professeur dans une université américaine connue. Donc voilà. Donc il y a effectivement tout un tas de biais sociologiques. Mais malgré tout, il y a cet effet. Alors il y a un autre effet qui a été mis en évidence par le téléphone portable, mais il y a un effet important qui est manifestement on est dans un petit monde de ce point de vue, et pourquoi, on peut essayer de le comprendre, qu'est-ce que ça nous dit sur la structure du graphe. Et deuxièmement, on s'est aperçu que quand ça marchait, quand la lettre arrivait, quand le mail arrivait, souvent parmi les liens utilisés il y avait des liens faibles, et ça aussi ça fait un écho à des travaux d'un sociologue américain très connu qui est Granovetter, qui parlait de la force des liens faibles. Donc on a des chemins très courts, et souvent dans ces chemins très courts, on a des liens dits faibles qui permettent d'arriver à destination. Donc ça, c'est les deux choses qu'on peut comprendre, qu'on comprend de la structure des graphes.
C'est-à-dire que si ces liens faibles manquent, la distance devient plus grande.
Tout à fait, tout à fait. Et finalement, ce qu'il en ressort comme image du réseau social, c'est que on a finalement des structures, des communautés assez bien connectées entre elles. C'est ce qu'on pourrait appeler votre environnement proche, donc les gens qu'on connaît un peu directement, qui se connaissent entre eux. D'ailleurs, si j'ai deux amis à Paris, là, leur probabilité de se connaître est assez grande aussi. Donc on a une espèce d'amas comme ça, une communauté très connectée entre elles. Et puis, on a des liens à plus longue distance qui vont vers une autre communauté. Donc, on peut imaginer la structure du réseau social, une image simplifiée, ça serait ces différentes communautés, ces différents groupes bien connectés entre eux et reliés par des liens à longue portée, disons. Et sont ceux-là, justement, ces liens faibles en général, c'est-à-dire c'est des gens qu'on voit pas souvent ou qu'on connaît pas très bien, qui permettent d'explorer d'autres parties du graphe. Mais ce qu'on comprend avec les modèles théoriques qu'on a développés ensuite après toutes ces mesures, c'est que on a besoin d'assez peu de liens à longue portée pour qu'effectivement, pour transformer le monde en un petit monde.
Mais Marc Barthélémy, quand on représente un graphe, on voit donc des nœuds et des liens, mais il manque de l'information par le fait qu'on ne connaît pas, en regardant le graphe, l'intensité de ces liens. Si on prend par exemple l'amitié sur Facebook, il y a des liens très intenses et d'autres qui ne le sont pas du tout. Est-ce que ça ne joue pas sur la dynamique du réseau, cette force des liens?
Tout à fait, ça joue dans tous les processus, mais c'est une information qu'on n'a pas tout le temps, c'est vrai.
Les lignes aériennes, par exemple, on a l'information, on connaît le nombre d'avions qui vont d'un point de départ à un point d'arrivée. Ça donne une sorte d'idée de l'intensité du lien, justement.
Ah, tout à fait, d'ailleurs la propagation de pandémie est essentiellement contrôlée. Disons, si on voulait aller vite, on a effectivement, il faut regarder où est le foyer de l'infection et où sont les lignes les plus avec le plus grand nombre de voyageurs.
C'est le trafic.
Et c'est ça, c'est le trafic, tout à fait. Donc c'est une complexité additionnelle, c'est que la plupart des réseaux sont valués, on appelle ça valué en bon français, c'est-à-dire que les liens portent une certaine valeur, qui peut être le nombre de passagers pour les lignes aériennes, l'intensité d'une relation amicale, par exemple, mesurée par la durée que vous passez au téléphone avec cette personne, et ainsi de suite.
Donc c'est une forme de pondération, finalement.
Oui, et cette hétérogénéité, qui est souvent très forte, d'ailleurs, quand on peut la mesurer, ajoute de la complexité à la structure du graphe, et parfois la compense, mais pas toujours, peut la renforcer aussi. Mais c'est vrai que quand on regarde les hubs, par exemple dans les lignes aériennes, on a un très très grand nombre de connexions qui partent des aéroports très connectés. En revanche, il y a un nombre beaucoup plus faible de connexions très fortes. Et ça réduit d'une certaine manière l'incertitude. Et à l'époque, on regardait la propagation de pandémie, on s'était aperçu que cette très forte hétérogénéité réduisait finalement les scénarios possibles de propagation de pandémie. C'est-à-dire que si on faisait une simulation sur le graphe lui-même, le fait d'avoir des hubs, l'épidémie pouvait aller n'importe où. En fait, cette image est un peu fausse. Parce que justement, on a des trajets un peu préférentiels qui sont dictés par ces nombres de passagers très élevés dans certaines lignes et pas d'autres. Donc l'hétérogénéité, dans ce cas-là, l'hétérogénéité des liens, d'une certaine manière, augmente la prédictabilité du processus dynamique, c'est-à-dire augmente la prédictabilité des scénarios épidémiques, qui était une bonne nouvelle.
Mais est-ce que j'ai le droit de dire que tous les très grands réseaux se ressemblent ? C'est-à-dire que, par exemple, Internet ressemble à un réseau neuronal ? Ou est-ce qu'on peut vraiment les classifier d'une façon qui les sépare vraiment dans leur structure, dans leur dynamique, dans leur extensivité, par exemple?
Je pense que il faut voir les grands réseaux. Il y a essentiellement deux grandes familles. Et pour simplifier, il y a ceux qui possèdent des hubs et ceux qui n'en possèdent pas.
C'est-à-dire des points hyper connectés ou non.
Voilà. Et ça, c'est vraiment les deux grandes familles de réseaux. Et tout ce qui va se passer sur ces réseaux, que ce soit des épidémies, propagation d'informations, et ainsi de suite, va dépendre dans quelle famille on se trouve.
Pardon, le réseau des flirts dans un lycée. Oui. C'est pas, il n'y a pas de hub. Sauf s'il y a une très très jolie fille et, ou un très très joli garçon. Mais en général, c'est quand même des petits hubs.
Oui, mais malgré tout, le fait, il y a quand même une hétérogénéité. Donc on comprend bien que... Alors, moi, je connais quelques mesures de réseaux de flirts dans des lycées et on voit effectivement quelques nœuds.
J'en ai vu quelques-uns. Oui. Et certains points sont connectés à 6, 7 autres liens, mais pas plus.
Oui, oui, bien sûr. Non, mais après, c'est une question. C'est vrai que ça, là, en l'occurrence, c'était un petit réseau. Mais quand on regarde, par exemple, il y a une étude un peu plus précise sur le nombre de contacts sexuels, une étude effectuée essentiellement pilotée par un sociologue suédois. Et on s'aperçoit que le nombre de contacts sexuels par an ou dans une vie, en fait, est distribué de manière large. C'est-à-dire qu'on a une très, très forte hétérogénéité. En fait, c'est pas du tout une loi gaussienne où tout le monde a N rapports, plus ou moins quelque chose. Non.
On se gardera de donner une estimation.
Donc il y a des gens qui ont très peu de rapports ou dans la moyenne, et puis il y a des groupes, alors que les épidémiologistes connaissent bien, les groupes à risque, qui ont un nombre très très élevé, mais beaucoup plus élevé que la moyenne, un nombre très élevé de rapports. Et donc en fait la structure, si on voulait représenter la structure du réseau qui contrôle la propagation d'épidémies sexuellement transmissibles, contient des hubs.
Mais le nombre de partenaires doit jouer un rôle dans la dangerosité de ces rapports.
Justement, mais on s'aperçoit. Alors, il n'y a pas de mystère dans les groupes à risque là, de cette étude. C'est vrai qu'il y avait les travailleurs du sexe, disons les prostituées, qui effectivement ont un très grand nombre de rapports, alors même protégés. Mais ce nombre de rapports est largement supérieur à la moyenne des individus, ce qui crée une espèce de grande diversité. Et qui, du coup, ne permet pas de représenter le réseau des contacts sexuels, disons, comme un réseau où tout le monde a plus ou moins le même nombre de contacts. Non, la famille à laquelle appartient ce réseau, c'est cette famille, justement, où on a des hubs. Et du coup, toutes les stratégies d'immunisation, de protection, etc., doivent tenir compte de cette propriété.
Je sais, Marc Barthélémy, que vous avez beaucoup travaillé sur la propagation des maladies contagieuses. Est-ce qu'une maladie faiblement contagieuse peut se propager rapidement ? Ou seules les maladies très contagieuses peuvent le faire ?
Alors ça a été un résultat très important des études théoriques justement effectuées par des physiciens dans les années 2000. L'idée c'était de se dire, on a ces réseaux qui ont beaucoup de hubs, des nœuds très fortement connectés, maintenant on met une épidémie dessus. Alors l'épidémie dans des modèles simplifiés, elle est surtout définie par un facteur, comme vous l'avez dit, qui est la probabilité de transmission d'un individu infecté à un individu non infecté. Donc la contagiosité, d'une certaine manière, est mesurée par cette probabilité. Plus la probabilité est grande, et plus de passer d'infecté à non infecté, plus cette probabilité est grande, et plus la maladie est contagieuse. Et on peut se demander, est-ce qu'il y a un seuil sur cette probabilité, sur cette contagiosité, à partir duquel l'épidémie va se propager dans tout le réseau et en dessous duquel l'épidémie va s'éteindre essentiellement.
Et rester locale.
Voilà, et rester locale. Et la très mauvaise nouvelle, et ce papier qui a été publié dans les années 2000, montre qu'en fait ce seuil décroît d'une certaine manière avec l'hétérogénéité du réseau. C'est-à-dire que plus le réseau est hétérogène, et en particulier plus il a de hubs, et plus ce seuil est faible. Et même dans la limite d'un réseau extrêmement grand, ce seuil tend vers zéro, ce qui veut dire que, essentiellement, même une maladie très peu contagieuse va finir par se développer dans tout le réseau. Alors, l'application naturelle, c'était un peu sur Internet, mais c'est valable pour les maladies infectieuses.
Mais sachant que le réseau aérien a des hubs, cela veut dire qu'une maladie faiblement contagieuse, où qu'elle apparaisse, finira par se propager.
Tout à fait. Non, mais d'ailleurs, c'est ce qu'il y avait à l'époque. On avait insisté sur le fait que de la structure du réseau des lignes aériennes, qui est justement cette structure de graphe un peu particulière avec des hubs, et que du coup toutes les techniques habituelles, l'immunisation au hasard, la fermeture d'aéroports, etc., étaient inutiles. Et le cœur du problème, et finalement le cœur de ce résultat théorique, c'est que justement on a ces hubs qui tiennent toute la structure, et dès qu'un hub est infecté, finalement, du fait de son grand nombre de connexions par définition, va infecter plein d'autres gens, même si la probabilité est très faible, et c'est ça qui finalement fait que l'épidémie se propage dans tout le réseau. Et c'est un peu ce qui se passe aussi sur les lignes aériennes. Et du coup, la fermeture, les restrictions de voyage, etc., sont totalement inutiles. Et c'est vraiment un résultat dû à la structure très hétérogène du réseau des lignes aériennes.
Mais quand une maladie se déclenche quelque part, une épidémie apparaît, est-ce que vous êtes sollicité par les pouvoirs publics ou est-ce que tout ça se fait indépendamment de la connaissance qu'on a des réseaux ?
Alors, je sais que mes anciens collègues, puisque moi j'ai arrêté de travailler sur les épidémies, mes anciens collègues, alors Victoria Colizza à l'Inserm à Paris, et puis Alessandro Vespignani à Northeastern aux États-Unis, eux travaillent encore sur ces sujets, ont développé des modèles, des simulations, et sont régulièrement, je sais qu'Alessandro Vespignani, lors de l'épidémie d'Ebola, a été sollicité, il est en rapport avec le CDC, donc effectivement, ces modèles sont utilisés, et ces idées qui viennent de la théorie des grands réseaux sont utilisées quotidiennement maintenant.
France Culture. La conversation scientifique par Étienne Klein.
Marc Barthélémy, j'avais une question à vous poser à la suite d'un entretien à ce même micro avec Lionel Nakache, qui nous a décrit ce qui se passe dans un réseau neuronal lors d'une crise d'épilepsie. Dans un fonctionnement normal du cerveau, chaque neurone est connecté à peu près à 10 000 neurones, donc c'est très local et les informations sont assez riches. Dans la crise d'épilepsie, chaque neurone est connecté à tous les autres et l'information échangée est très pauvre. C'est ça qui provoque la crise d'épilepsie, une sorte d'uniformisation du fonctionnement général du cerveau. Est-ce qu'il y a des réseaux comme Internet ou le web ou Facebook qui sont menacés d'avoir le même type de comportement, c'est-à-dire une sorte de crise d'épilepsie systémique par le fait que tout le monde est connecté et que l'information échangée est tellement pauvre que tout se passe comme s'il ne se passait rien?
Le réseau neuronal dont on parle, c'est le réseau fonctionnel, en fait. On regarde quelles sont les zones qui fonctionnent en même temps, etc. Et c'est vrai que ce qui a été mesuré, alors je suis pas un expert du tout sur le cerveau, mais c'est vrai que il y a cette le système, apparemment, le cerveau se fige dans un état complètement synchronisé, qui est donc loin de l'état normal où justement on a une activité un peu plus complexe, plus délocalisée. Ça semble être le comportement un peu normal. On peut imaginer que tout un tas de processus dynamiques, là, on a des effets par exemple de réseaux sur Internet ou plus prosaïquement même dans les villes avec les problèmes de congestion. On a des problèmes de trafic sur Internet aussi, donc on doit essayer de comprendre comment tout ce système peut réagir sous une certaine demande. On a des points de comparaison. Le cerveau et le réseau neuronal, en tout cas, fait partie de ces réseaux qu'on ne connaît pas encore très bien, puisque le réseau neuronal vraiment n'est pas encore complètement mesuré chez l'homme, hein, simplement sur des petits organismes. Et il y a une particularité pour le cerveau qui est effectivement l'espace. C'est ce qu'on appelle un réseau spatial. Donc ça, c'est une famille de réseaux pour lesquels on a un coût associé à la longueur du lien. Autrement dit, les neurones vont se connecter entre eux via des axones. Et un long axone, finalement, ça nécessite de la matière, de l'énergie, etc. Donc dans tous ces réseaux spatiaux, on a vraiment un coût associé à la longueur du lien, ce qui induit des particularités nouvelles. D'autant plus que, à ma connaissance, le réseau neuronal est un des rares, très rares exemples de réseau spatial tridimensionnel. Le réseau des routes, par exemple, c'est surtout bidimensionnel. On est dans un plan. Là, on est dans l'espace, tridimensionnel. On a des effets de coût, donc ça coûte très loin. Est-ce que le cerveau, durant son développement, est-ce que c'est avantageux pour lui de faire des longs neurones, etc. Et donc, des modèles de...
Mais ça change beaucoup de choses, de passer de 2 à 3 dimensions?
Oui, en tout cas, ça dépend si on est planaire ou pas. En tout cas, pour les routes qui sont à peu près planaires, oui, si on circulerait mieux si on était, si on avait des routes en trois dimensions. Là, on a des routes dans un plan, donc on est obligé de passer par les mêmes points. Donc effectivement, c'est un peu plus dur de circuler en deux dimensions qu'en trois dimensions. Mais le fait surtout qu'on soit dans un espace confiné, que le cerveau est un réseau qui se développe dans un espace confiné, introduit l'espace de manière essentielle et va jouer sur sa structure. Et ça, clairement, de mon point de vue de théoricien des réseaux, on est loin encore d'avoir un modèle qui décrit un peu ça. Mais je voudrais insister sur une autre chose, c'est que pour tout un tas de réseaux, on a effectivement la structure. Mais ensuite, on a la dynamique, quel est le processus qui se passe dessus. Par exemple, il avait été discuté à l'époque de ce qu'on appelle les réseaux trophiques, qui représentent en fait dans un écosystème quelle espèce mange, se nourrit de quelle autre. Donc on a un réseau comme ça, les nœuds sont les espèces, mettons, et on met un lien d'une espèce vers une autre si elle mange, si elle se nourrit.
Ce sont des liens dirigés, il n'y a qu'un sens.
Voilà, là c'est un lien dirigé. Et en fait, on s'aperçoit qu'il y a aussi des hubs, des espèces hubs qui mangent un peu tout, qui sont toutes mangées. Voilà, c'est ça. Et les gens, un peu rapidement, à l'époque, avaient dit « Ah, mais ça y est, on a les espèces qui tiennent tout l'écosystème en place, ce sont les hubs. » Et en fait, c'est un peu faux, parce qu'on a effectivement la structure du réseau qui est importante, mais on a aussi la dynamique. On a, en fait, les relations entre proies et prédateurs sont régies par des équations...
Si les proies se reproduisent beaucoup plus vite que les prédateurs, ça doit arranger un peu la situation.
On a toute une dynamique, effectivement. Et ce qu'il faut, c'est utiliser le réseau comme substrat. Ça va être la base sur laquelle se trouve cette dynamique. Et c'est une double complexité. Et en ce qui concerne les écosystèmes, par exemple, c'est pas du tout clair. Est-ce que c'est vraiment les hubs qui contrôlent la stabilité de l'écosystème? C'est pas du tout vrai. Ça va être pareil pour revenir au cerveau. On a un processus d'émission de signal nerveux, de signal électrique. Ça se passe sur le substrat qui est le réseau neuronal. Donc on a quand même des effets dynamiques sur cette structure. Donc on est assez loin de comprendre tout ça.
Mais est-ce qu'on a le droit de dire que le problème du maintien de la biodiversité qui agite beaucoup d'esprits, c'est un problème de réseau, in fine. Un réseau qu'on n'est pas forcément capable de dessiner, mais qu'en fait ça se joue en ces termes-là.
Oui, on peut le voir comme ça.
C'est-à-dire qu'il y a des nœuds, des liens, des espèces qui sont malmenées par d'autres espèces, la réciproque n'étant pas forcément vraie. Et si on était capable de tracer toute la carte, alors on aurait peut-être une meilleure approche de la solution.
Tout à fait. Et ça va même plus loin, puisqu'on s'aperçoit que les études modernes, finalement, pointent vers un fait important, qui est que ces réseaux, en général, ne sont pas isolés. Et ces réseaux sont couplés. Donc on a différents types de réseaux. Et que ce couplage est loin d'être neutre. Et en particulier, il y a une étude qui est parue il y a quelques années dans Nature, qui montrait que le réseau, par exemple, électrique, couplé au réseau de communication, en fait, augmentait la fragilité du tout. C'est-à-dire que finalement, c'est un peu comme si la fragilité du système couplé était un peu supérieure à la somme des fragilités, et que c'était illusoire de considérer le réseau, par exemple, d'étudier la stabilité du réseau électrique tout seul, sans prendre en compte son couplage avec le réseau de communication. Et ça, c'est vraiment les études modernes qui montrent que nous vivons dans plusieurs réseaux. Même l'individu, si on y pense, on a un réseau social défini par... on a un certain nombre d'amis, etc. On a aussi un réseau professionnel qui n'est pas toujours le même. Et ces différents réseaux interagissent ou pas. Et nous vivons dans plusieurs réseaux. Et quels sont les réseaux? Donc on parle de réseaux en multicouches, disons. On peut imaginer les réseaux de transport aussi. Finalement, de plus en plus, le déplacement dans les villes est ce qu'on appelle multimodèle. C'est-à-dire qu'on va passer, par exemple, de la voiture au métro, prendre le bus. Donc on a tous ces différents réseaux qui interagissent les uns avec les autres. Et l'écosystème en est un. Et on pourrait, c'est une vue un peu de l'esprit, mais effectivement, s'imaginer que nous sommes, chaque individu, à l'intersection de tout un tas de réseaux. Et comprendre le monde, ça serait comprendre ces interactions pour essayer de comprendre la stabilité et son évolution.
Alors justement, Marc Barthélémy, vous êtes chercheur, ça veut dire qu'il y a des questions que vous posez. Quels sont les types de réseaux qui vous intéressent le plus en ce moment? Et quelles sont les questions dont vous aimeriez bien trouver la réponse?
Je suis particulièrement fasciné par les réseaux spatiaux. Les réseaux spatiaux, alors l'exemple emblématique, c'est le réseau des routes. Et on peut voir maintenant, grâce à la numérisation de cartes anciennes, on peut maintenant, sur 200-300 ans, voir l'évolution du réseau de routes. Donc, par exemple, en France, on avait numérisé récemment à l'EHESS la carte de Cassini. Et on peut regarder comment, à partir de la carte de Cassini, ça se développe en France. On peut regarder ça au niveau des villes aussi, comment ce réseau de routes évolue. Alors, on avait regardé ça, par exemple, à Paris, qu'est-ce que Haussmann avait changé dans le réseau des routes. Et on a de plus en plus de données, mais de manière assez, peut-être un peu surprenante, on n'a pas de modèle raisonnable d'évolution de ce réseau. D'abord, on sait très mal le caractériser. Alors, ça vient du fait que les réseaux spatiaux ont une richesse en plus, qui est justement le fait d'être plongé dans l'espace. Les nœuds sont, dans ce cas, sont les intersections, et les liens sont les segments de route entre deux intersections. Et on comprend bien que ce qui distingue deux réseaux, c'est finalement la position des nœuds. C'est-à-dire que si on regarde deux cartes de villes différentes, on a toujours à peu près le même schéma. On a des lots, des parcelles qui ressemblent à des rectangles plus ou moins allongés, etc. Mais toute la richesse de ces réseaux est pas uniquement dans la topologie, dans les connexions, mais aussi dans l'espace. Donc on a une richesse, une complexité supplémentaire. Comment caractériser ces réseaux, c'est un problème, on ne sait pas vraiment. Comparer, par exemple, est-ce qu'on peut comparer deux villes, si on regarde simplement les cartes, est-ce qu'elles sont similaires ou pas, est-ce qu'on peut faire des classifications de réseaux de rues, par exemple. Donc on a beaucoup travaillé là, mais c'est pas là-dessus, mais c'est pas fini. Mais
est-ce que ça pourrait aider, par exemple, si on devait construire une nouvelle ville, de prévoir à l'avance donc un réseau de routes qui soit le plus adapté, c'est-à-dire où les distances, au sens où vous l'avez défini, sont les plus courtes possibles, quel que soit le point de départ et quel que soit le point d'arrivée.
Tout à fait. Et on voit ça très bien. On a des moyens pour mesurer ça. Donc, on a tout un tas de mesures de centralité dans ces réseaux. C'est-à-dire qu'on peut se poser des questions de est-ce que tous les chemins vont passer par le même point, par exemple, l'espèce de pont par lequel tout le monde serait obligé de passer. Donc, on a des moyens de mesurer ça. Et d'ailleurs, c'est ce que, en fait, l'impact visible du point de vue de la théorie des graphes de Haussmann, par exemple, c'est d'avoir, d'une certaine manière, fluidifié la circulation. Alors, même si on n'a pas de preuve directe de ça, on voit bien que la structure.
Il a archivé rue, déjà.
Oui, bien sûr, mais ne serait-ce que dans l'organisation, parce que finalement, en termes de longueur de route, en fraction de longueur totale de route, Haussmann n'a pas changé tant de choses que ça. Et on s'aperçoit que l'impact principal, c'est d'avoir effectivement relié des points assez centraux entre eux. Et ça pourrait faire de redistribuer complètement la congestion sur ce graphe. Donc là, ça, on le voit bien avec des moyens théoriques.
Ça décentralise un petit peu, non?
Ça décentralise, oui, ça délocalise. Quand on fait des études sur le Paris d'avant Haussmann, on s'aperçoit que ce qui correspond en gros au Marais et au centre de Paris devait être très congestionné, hein, du point de vue du graphe, hein, simplement. Alors, dans la réalité, il se trouve que c'est vrai pour tout un tas de raisons. Mais après Haussmann, on voit que la distribution de cette quantité qui mesure un peu la congestion est totalement délocalisée, c'est-à-dire qu'il a vraiment réorganisé, fluidifié d'une certaine manière le trafic.
Mais c'était conscient de sa part, c'est-à-dire qu'il avait des notions de théorie des graphes ou...
je ne sais pas, mais en tout cas, c'est les principes de base sur lesquels, alors on a perdu beaucoup de ses papiers dans un incendie, mais les principes de base sur lesquels s'est fondé, c'est-à-dire relier des points très centraux, etc., pour tout un tas de raisons, plus ou moins avouables, comme celle d'amener les soldats très rapidement sur les troupes, très rapidement sur les lieux de manifestation, mais relier des points centraux, etc., des principes assez simples ont eu pour effet de fluidifier tout le système. Alors, on arrive maintenant, la théorie des graphes permet de se poser des questions sur justement le couplage, par exemple, est-ce que mettre un métro plus rapide, est-ce que c'est toujours quelque chose de bénéfique? Est-ce que à Londres, la nouvelle ligne de train qu'on va rajouter, est-ce qu'elle va avoir un effet globalement bénéfique et diminuer la congestion, le trafic total? Et ça, c'est des études sur les réseaux couplés qui permettent de donner des premières indications. Et ça montre en tout cas une chose, c'est qu'on ne peut pas considérer, en ce qui concerne le trafic, et ça, c'est ce qui m'intéresse, c'est que on ne peut pas considérer le trafic routier, par exemple, tout seul, regarder ce qui se passe sur le réseau de route, etc., le réseau des rues. En revanche, il faut considérer que ce réseau est couplé avec tous les autres modes de transport et ce couplage est particulièrement pertinent et change toute la dynamique du système.
Mais comment est-ce qu'on peut le modéliser, ce couplage entre, par exemple, si on prend Paris, le métro, les bus, les tramways, les vélos, les voitures? Est-ce qu'on arrive à comprendre comment un particulier, par exemple, peut choisir tantôt l'un de ces modes de transport plutôt qu'un autre?
Alors c'est ça, ça vient de... Oui, c'est possible, on peut construire ces réseaux multicouches et ça vient de l'extraordinaire richesse des données qu'on a. On considère effectivement que deux points, par exemple un arrêt de bus et un arrêt de métro sont reliés, donc ils appartiennent à deux couches différentes, la couche du réseau de métro et la couche du réseau de bus. Et deux points, une station de métro et un arrêt de bus vont être reliés si leur distance est inférieure à... ce qui correspond en gros à 5 minutes à pied. Donc en fait, on a suffisamment de données précises, spatiales.
C'est beaucoup de données, c'est ce qu'on appelle des big data.
Oui, tout à fait, oui, oui, oui. Et par exemple, on a fait une étude sur le Royaume-Uni entièrement avec tous les modes de transport, tous. Donc du ferry à l'avion, en passant par les bus, le métro, le train, on peut construire ce réseau multicouche complètement et où on a défini chaque connexion entre couches quand c'était effectivement possible de marcher d'une couche
à l'autre. Ce réseau est intellectuellement gérable. Alors, c'est-à-dire on peut aider un particulier qui poserait une question de savoir quel est le mode de transport le plus adapté là où il est, au moment où il s'y trouve.
Alors, ça fait écho une dernière étude qu'on a faite. On s'aperçoit que ces réseaux, autant le réseau, par exemple, de métro reste à peu près gérable pour nos capacités cognitives, dès qu'on introduit du couplage.
Il faut une application.
Voilà, en fait, c'est assez vertigineux, c'est-à-dire que c'est bientôt, en tout cas dans les méga villes qu'on connaît, hein, Paris, Tokyo, New York, c'est plus vraiment possible pour un cerveau humain d'optimiser le chemin pour aller d'un point à un autre et sur tous les différents réseaux de transport. Et c'est quelque chose que on ne peut plus maintenant se faire une représentation mentale simplifiée de tous les réseaux de transport. Donc ça pose un certain nombre de problèmes. C'est vrai que sans application, alors on pourra toujours aller d'un point A à un point B. Le problème, c'est d'y aller en un temps raisonnable. Ben ça, maintenant, notre cerveau, en tout cas, n'est plus capable d'emmagasiner toute l'information afin d'arriver à l'optimisation. Donc c'est une chose un peu nouvelle et qui donne cette idée des villes futures où on aura du mal à se déplacer de manière non assistée, en tout cas déplacer de manière efficace.
Et quel avenir voyez-vous pour les big data? Est-ce qu'elles vont nous piloter finalement par le biais des applications qui les concernent, ou est-ce que, trouvant que cette complexité est trop grande, nous allons les délaisser et agir à l'instinct?
Bah, en tout cas, les villes pour l'instant se développent, hein, donc ça, même avec tous les aspects négatifs qu'on connaît, et les big data, en l'occurrence, vont nous servir à naviguer dans ces villes. Maintenant, du point de vue scientifique, les big data ne sont pas suffisantes. Le patron de Wired avait écrit ce papier en 2008, je crois, où la science est morte, vive les big data. Il faut, à mon avis, les big data...
Oui, c'était l'idée que ce qui a fait la science, c'est la théorisation, puis l'expérimentation, et qu'avec les big data, on est plutôt conduit à procéder par induction, à trouver des espèces de lois empiriques, des corrélations, et que ça, c'est pas la science, celle qu'on a construite.
Voilà, et Anderson disait, dehors toutes les sciences, les théories, etc., maintenant on va tout guérir, on va guérir toutes les maladies, on va tout comprendre, etc. La réalité, 8 ans après, c'est que pas du tout. Les big data, alors c'est très utile si on veut vous vendre quelque chose et prédire quel site web vous allez visiter après tel site, mais je pense que pour l'instant, on n'a pas passé le cap du processus de théorisation, de comprendre les mécanismes élémentaires, fondamentaux, qui régissent l'évolution d'un système. Comme la ville, par exemple, on peut faire autant de big data qu'on veut. Il faut construire une théorie qui est basée sur les mécanismes dominants, etc. On fait des simulations, mais avec un nombre de paramètres tellement grand que finalement, les simulations ressemblent plus à des boîtes noires alimentées par des big data aussi. Mais on n'a aucune certitude sur la validité de ces modèles, sur la validité de leurs prédictions. Et je pense que dans ce cas-là, dans le cas de la ville, il faut un peu revenir aux fondamentaux, un peu comme la physique l'avait fait, c'est-à-dire... Quel est le modèle minimal avec le nombre d'ingrédients le plus petit possible, avec les mécanismes fondamentaux qui permettent de prédire le plus grand nombre de choses? Et si ça marche pas, alors les big data, ça a l'avantage maintenant de pouvoir tester ces théories. ce qui n'était pas le cas avant. Et si ça marche pas, ben revenir à son papier, son crayon et se dire voilà, on a loupé le mécanisme fondamental, il faut refaire une théorie. Ça, de mon point de vue, les big data vont enrichir. Donc je parlerai plus de data informed et pas data driven. Maintenant, les données vont nous aider à développer de la théorie, mais je pense qu'on est encore loin de des données qui vont tuer la théorie.
Mais est-ce qu'il n'y a pas des jours, Marc Barthélémy, vous êtes chercheur, où la complexité des problèmes que vous avez à traiter est telle qu'elle vous écrase et vous ne savez plus où donner de la tête? À cause des big data, à cause des lois physiques que vous devez intégrer, à la cause de la diversité de ces réseaux, de leur complexité qui peut être différente d'un cas à l'autre, est-ce que c'est un objet que vous, dont vous pensez que vous pourrez le saisir un jour, intellectuellement? C'est-à-dire, quel que soit le réseau qu'on vous présentera, vous pourrez, à son propos, moyennant quelques calculs, dire comment ça va se passer.
Ça a pu m'arriver, ce côté un peu déprimant.
Et changer de sujet.
En revanche, il y a des points encourageants. Tout d'abord, que ce soit sur les réseaux et plus généralement, même sur des systèmes comme les systèmes urbains, etc., où il y a beaucoup de réseaux qui sont couplés entre eux, on voit quand même des aspects génériques. C'est-à-dire qu'on voit les mêmes choses se reproduire à différentes époques et sur différents continents. Donc on a quand même ces aspects, c'est ce que permettent ces données. On voit des choses un peu universelles, entre guillemets, on voit des choses qui se ressemblent. Même si localement, on a tout un tas de spécificités et de choses différentes, on a quand même des choses génériques qui apparaissent. Et ça donne l'espoir de se dire, ah ben là, il y a un mécanisme fondamental qui est à l'œuvre. Et si je le comprends, je vais peut-être pouvoir comprendre un certain nombre de choses. Donc je suis confiant sur le fait qu'on arrivera à faire des théories sur certains aspects. Par exemple, est-ce qu'on peut comprendre le temps, comment varie, par exemple, le temps passé dans les embouteillages en fonction de la taille de la ville? On a des choses assez simples comme ça, comment varie l'émission de CO2 en fonction de la taille de la ville. Donc on peut imaginer qu'on a ce paramètre, la population d'une ville, et comment varie tout un tas de choses, la consommation d'énergie, etc. Et je pense que sur ces aspects importants, mais un peu simplifiés, on peut arriver à faire des modèles, que l'identification d'un mécanisme dominant est possible. Et après tout, finalement, si pour parler des villes ou ces réseaux, si les villes existent, il y a quand même une raison. Elles existent partout dans le monde entier. Il y a donc des raisons fondamentales, des forces à l'œuvre, d'échanges, etc., qui font que ces objets existent. Donc oui, je suis confiant, mais le chemin vers une science des villes qui intégrerait cette connaissance, ces différents réseaux couplés entre eux, on est un peu au début. La route est longue, mais je suis optimiste.
Par exemple, aujourd'hui, vous travaillez sur quoi? Aujourd'hui, précisément aujourd'hui, c'est quoi la question du jour?
Aujourd'hui, c'est un modèle. Quand on regarde, on s'aperçoit qu'on regarde des cartes, par exemple, de Paris, mais autour, hein, 3e, 4e, 5e couronne, on s'aperçoit qu'il y a des boucles qui deviennent très, très centrales, c'est-à-dire des points. C'est-à-dire que normalement, dans une carte habituelle, on s'aperçoit que le point au centre, par exemple, ici, en l'occurrence, le centre de Paris serait le plus central. En fait, on s'aperçoit qu'il y a des structures. On a des boucles qui deviennent très centrales. Donc, on a souvent des périphériques ou même des franciliennes qui apparaissent, etc. Est-ce que, théoriquement, on peut comprendre quand est-ce que...
Le centre se décentre.
Le périphérique, enfin, le centre est moins important que la boucle. Et donc, on peut, à l'aide d'un petit modèle simplifié, faire des calculs, comprendre ça. Et donc, on est en train de vérifier le calcul là. Ça a l'air de marcher. Et on va pouvoir comprendre et dire, en voyant une carte, ah oui, mais là, si la vitesse sur le périphérique, etc., n'est pas suffisante, elle ne sera pas centrale. En tout cas, on pourra discuter des conditions générales pour lesquelles le centre est, où c'est moins intéressant de passer par le centre, par exemple, sur ce graphe.
Merci Marc Barthélémy d'être venu nous parler de façon claire et non pas simple de la complexité des réseaux. Avant cette émission, je comptais repartir en Vélib et vous ne m'avez pas fait changer d'avis. C'était La Conversation Scientifique par Étienne Klein, avec la collaboration de Cyril Baer, à la technique d'Ali Yaha et à la réalisation François Connac. Dans quelques instants, pour ne pas dire tout de suite, vous retrouverez Antoine Guillot pour Plan Large, le nouveau rendez-vous cinéma de France Culture.